Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Le prochain dépôt du budget canadien risque de voir un recul pour la science canadienne. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'inquiète des réductions annoncées par le premier ministre Mac Carney, destinées à réduire de 15% les dépenses de ses ministères. Le gouvernement désire atteindre des économies de 25 milliards de dollars sur 3 ans. Cela pourrait entraîner la perte de 60 000 emplois au sein de la fonction publique, prévoient les analystes. Le syndicat représentant les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs et chercheuses travaillant pour le gouvernement fédéral s'alarme de ce programme d'austérité du gouvernement fédéral qui risque de fragiliser notre capacité à nous adapter et les effets se feront sentir dans les communautés et pas seulement dans les laboratoires. Comment le nouveau budget fédéral affectera la science? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous penchons sur le recul appréhendé de la science fédérale en raison d'une très probable réduction d'investissements et des emplois en recherche. Pour en parler, je suis en compagnie de Félix Proulx-Giraldo, qui est directeur général par intérim d'Evidence for Democracy, un organisme à but non lucratif militant en faveur d'une utilisation transparente des données probantes dans la prise de décision gouvernementale au Canada. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Jean Bérubé, vice-président du groupe de chercheurs scientifiques du gouvernement qui représente 3000 chercheurs fédéraux en santé, environnement, encore à la défense et mathématiques, si je comprends bien, Monsieur Bérubé.
C'est bien ça, les mathématiciens à Statistique Canada sont avec nous.
Entendu. Bon, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le programme d'austérité du gouvernement fédéral a été annoncé bien avant le dépôt de budget de demain. Il faudra réduire les dépenses de 25 milliards de dollars sur 3 ans, a dit le premier ministre Mark Carney. Le budget au goût d'austérité affectera la fonction publique, mais risque aussi d'avoir des conséquences sur la science. Concrètement, peut-être, je vais commencer avec vous, Monsieur Proulx-Giraldo. Comment le nouveau budget fédéral affectera la science, selon vous?
Eh bien, c'est quelque chose qu'on va voir très bientôt, là, d'ici la semaine prochaine. Mais on nous a promis un budget d'austérité et d'investissement. Donc, à la fois des investissements dans certains secteurs, surtout dans les projets d'intérêt national, la recherche dirigée, par exemple, on va avoir beaucoup plus d'investissements là-dedans. Et probablement un peu de coupures, probablement plus beaucoup de coupures dans certains domaines comme la science fondamentale, on peut penser par exemple à la physique, là, la cosmologie, vraiment la science qui se pose des questions sur l'univers sans avoir nécessairement des applications concrètes. Donc on anticipe que c'est probablement dans ces domaines-là qu'on va voir des coupures principales.
Oui, le budget sera déposé demain, le 4. Donc, peut-être, quel sera l'effet principal des coupures en recherche publique, M. Bérubé?
Alors, pour vous donner une idée, il y a un sondage qui est paru, qui a été fait en 2024 par l'Institut professionnel et donc qui a produit un rapport, une feuille de route scientifique pour l'avenir du Canada. Dans ce rapport-là, les 3000 chercheurs et mathématiciens du gouvernement canadien déclarent que 6,5% d'entre eux déclarent que leur ministère dispose de financements adéquats pour la recherche, dont près de 94 disent que c'est pas le cas. Et ça, c'est une baisse de moitié depuis 2021. Donc, déjà, le désinvestissement en science a commencé.
Oui.
52% des répondants font état d'une réduction des financements de leur propre programme de recherche. C'est un chiffre qui a doublé depuis 2021. Puis, après 2015, il y avait eu une reprise de la capacité scientifique au Canada.
Mm-hmm.
En 2021, 51% des participants avaient observé qu'il y avait eu un accroissement depuis 2015. Et maintenant, c'est rendu à 34% seulement. Donc, il y a eu une baisse d'un tiers concernant la reprise du financement qui a eu lieu. Puis, finalement, il y a juste 26% des scientifiques du gouvernement canadien qui recommandent une carrière au niveau fédéral. Et ça, c'est en baisse d'un tiers depuis 2021. Oui. Donc, les conditions se dégrade beaucoup.
Oui, on va parler plus largement de ce rapport qui a été déposé le 20 octobre dernier. Je voudrais peut-être revenir un petit peu sur une lettre qui a été envoyée directement dans le bureau du Premier ministre, parce que, en fait, ça inquiète de nombreux scientifiques au pays, ce dépôt de budget. D'ailleurs, la Coalition pour la recherche canadienne, une alliance de chercheurs d'universités, d'organismes et d'étudiants de sciences, a envoyé donc une lettre soulignant l'importance de protéger la science canadienne et de miser sur la rétention des talents d'ici. Monsieur Proulx, Giraldo, que disait cette lettre exactement?
Oui, bien écoutez, cette lettre-là, on l'a remise au nom là, de la Coalition pour la recherche canadienne au Premier ministre Carney et au ministre des Finances François-Philippe Champagne pour leur demander essentiellement de protéger les investissements majeurs qui avaient été promis dans le budget de l'année dernière, donc le budget de 2024. À cette époque-là, le budget 2024, c'était le plus gros investissement en sciences et en recherche qu'on a vu au Canada depuis à peu près 20 ans. Donc, l'année dernière, on avait promis 1,8 milliard de dollars sur 5 ans pour le financement des subventions de recherche, ainsi que 825 millions de dollars sur 5 ans pour les bourses d'études. Ouais. Donc ça, c'était un investissement majeur pour soutenir les bourses de formation à la maîtrise, au doctorat et aussi pour les postdoctorats. Donc c'était après 20 ans là, de stagnation pour la valeur de ces bourses. Donc, imaginez, ne pas recevoir d'augmentation de salaire pendant 20 ans, c'était vraiment...
Oui, c'est attendu. Oui.
Exactement. Donc, en fait, cette lettre-là qu'on a remise au Premier ministre et au ministre des Finances, c'était pour leur demander, écoutez, on comprend que cette année, la situation, elle est difficile, mais c'est très, très important de ne pas revenir en arrière. Déjà, à l'époque, le portrait était vraiment pas très beau sur la situation Canada par rapport à nos pairs là en matière de dépenses là en recherche et développement. Par exemple, on était avant-dernier pays du G7 en termes de pourcentage de notre PIB qui est investi en recherche et en développement. On est nettement en dessous de la moyenne de l'OCDE et en fait, on est de même le seul pays de l'OCDE dont nos investissements en recherche et en développement stagnent, voire même reculent. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que nos voisins sont en train de nous dépasser. Donc, voilà le contexte dans lequel on se trouve en ce moment.
Ah oui, puis c'est une époque en plus compliquée, justement, par rapport à nos voisins. Donc, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada a sorti un rapport le 20 octobre dernier qui souligne que la science fédérale est déjà mise à rude épreuve actuellement. On note une baisse du niveau de confiance dans les politiques gouvernementales, un constat que le tiers des laboratoires et équipements sont en mauvais état, un manque de financement dans certains ministères. Donc, Monsieur Bérubé, vous y avez participé. Pouvez-vous justement nous parler donc de ce rapport et de ses conclusions et peut-être de la raison qui a fait que vous avez participé à ce rapport-là?
Alors, avec l'attaque sur la science qui se passe actuellement aux États-Unis, et c'est pas nouveau, on a eu la même chose au Canada dans les dernières années par certains participants politiques.
Oui,
la confiance dans les données probantes est en chute libre. Les conspirationnistes de toutes sortes sont très actifs. Et donc, nous avons observé donc une baisse de confiance qui est passée de 57% à la science à 44% en 2024. Donc, c'est très, très, très épeurant. Et là où ça affecte surtout, c'est, par exemple, les programmes de recherche réglementaire qu'on a au Canada, qui sont faits par les chercheurs du gouvernement fédéral sur la qualité des aliments, la santé des productions animales. Tu sais, on pense à la grippe aviaire, la grippe porcine, la maladie de la vache folle. Ces programmes-là sont de moins en moins respectées. Les gens mettent en cause les données probantes. Et même chose sur le climat. Les chercheurs fédéraux, eux, font le travail à long terme la réglementation et des dispositifs expérimentaux, par exemple sur le climat, le CO2, la pollution, les stocks de poissons, les espèces menacées, les feux de forêt. C'est tous des domaines où les données probantes sont très importantes et ça serait dramatique s'il y avait des coupures dans ces programmes-là au gouvernement fédéral.
Oui, parce que contrairement à des scientifiques qui sont à l'université et qui postulent sur des programmes et des subventions de 3 à 5 ans, par exemple, ce sont des programmes qui sont dans la durée.
Dans
finalement.
La durée, pour le suivi, c'est important de faire le suivi de toutes ces données-là pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec le temps. Vous savez, aux États-Unis, ils ont des données depuis plus de 70 ans sur le CO2. Ben, le gouvernement a décidé d'arrêter de récolter ces données-là. Donc, il va y avoir un bris dans les données. Les chercheurs du gouvernement canadien en sont conscients et c'est la raison, par exemple, pour laquelle ils ont commencé à télécharger les bases de données américaines auxquelles on contribue depuis toujours. Puis, il faut les sauvegarder, ces bases de données-là, avant que le gouvernement Trump ne les efface.
Oui. On parle aussi d'un manque de financement dans certains ministères.
Absolument. La plupart des chercheurs, la très grande majorité, rapportent qu'il n'y a plus assez de financement pour la recherche. Moi, je veux donner une idée. Depuis 30 ans, j'ai vu, moi, le budget de la recherche à mon secteur passer de 10 millions à actuellement 1,4 million de dollars seulement.
Oui,
donc, une baisse de 86% du financement de la recherche. Et ça, c'est en dollars. De 1980, c'est pas en dollars constants, c'est en dollars de 1993. Oui. Donc, c'est une baisse dramatique du financement de la recherche, par exemple, juste dans mon ministère.
Mm-hmm. Il manque de soutien. Monsieur Proulx-Giraldo, vous en pensez quoi de ce rapport-là?
Écoutez, je suis vraiment choqué là par les résultats là, qui ont été trouvés là, dans ce rapport-là. Je suis désolé là des constats qui sont faits et je suis tout à fait d'accord là avec M. Bérubé, comme quoi ces attaques-là sur la science qu'on voit, puis le recul qu'on observe au niveau du gouvernement fédéral est très inquiétant. Et surtout, ce qui, moi, m'inquiète particulièrement, c'est que ces coupures-là vont affecter certaines populations là disproportionnellement. Donc, par exemple, les scientifiques en début de carrière, aussi les minorités, comme par exemple les femmes ou les chercheurs qui travaillent beaucoup sur le terrain, ce sont des groupes qui vont être affectés de manière disproportionnée par toutes ces coupures-là.
Oui, parce que ce n'est pas juste dans les laboratoires, c'est aussi sur le terrain.
C'est aussi sur le terrain. En fait, quand on parle d'intégrité scientifique puis d'ingérence politique, souvent, il y a trois facteurs qu'il faut prendre en compte. La capacité des chercheurs et des chercheuses à faire leur recherche. Donc, ça, c'est le financement, les ressources. Il y a aussi la liberté de communication, donc d'être capable de parler de ses travaux de recherche aux journalistes, au public en tant que tel, puis aussi la question d'indépendance, d'être capable de choisir quels travaux on va faire, dans quelle direction ça va aller. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment un peu des attaques à tous ces niveaux-là, là, vraiment. Et ça, c'est très inquiétant, surtout compte tenu du contexte, comme on l'a mentionné, aux États-Unis. Parce que cet effet-là de Trump est bel et bien réel au Canada.
Oui, c'est sûr.
Sous toutes sortes de facteurs. Là.
Oui. Monsieur Bérubé, les compressions attendues risquent d'être de deux formes, un recul financier et des pertes d'emplois, n'est-ce pas? On parle de coupures d'attrition et de coupures par programme. C'est quoi la différence entre les deux?
Alors, par attrition, c'est simplement les personnes qui partent à la retraite ou qui changent d'emploi. Alors que des coupures de programme, c'est des choix stratégiques qu'un gouvernement peut faire pour faire disparaître certains programmes au complet. Donc, à ce moment-là, tous les employés qui sont impliqués dans ce programme-là, que ce soit les jeunes chercheurs, chercheuses, ou même les seniors, tout le monde est coupé. Et c'est ce qu'on a vu en 1996, lors de la revue de programme. Ils avaient coupé, par exemple, toute la foresterie urbaine,
oui.
qui était un programme très important à l'époque. Et vous savez, les coupures dans les programmes, ça va affecter des sujets qui touchent les Canadiens à tous les jours. Par exemple, on a des programmes de recherche sur les ravageurs et insectes et maladies en forêt. On peut penser à la tordeuse, à la grille qui actuellement détruit les frênes dans nos villes et la tordeuse qui détruit les forêts dans le nord du pays. Et ça a un impact direct sur les scieries en région qui doivent fermer. Les programmes de recherche sur les feux de forêt. Les feux de forêt sont en croissance importante depuis 2020, on l'a vu. La santé humaine, le développement des nouveaux vaccins. On a vu un nouveau virus qui est apparu l'été dernier, qui un virus qui provient des chimpanzés. Il y a les stocks de poissons en mer qui sont très importants à suivre. On a vu ce qui se passe quand on ne suit pas les stocks. La morue qui a disparu dans les années 90. Donc, c'est des programmes très importants qui doivent être maintenus en fonction pour pouvoir répondre aux questions qui touchent la santé des Canadiens, la santé de l'économie canadienne.
Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Ça donne accès à toutes nos émissions. Bonne écoute. Et Monsieur Prou, Giraldo, quel est l'état de la science au gouvernement du Canada en 2025? Où est-ce qu'on en est?
On pourrait parler du contexte historique avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump là, en janvier cette année. Le pays se portait pas bien. Là. J'ai parlé plus tôt qu'on était vraiment l'avant-dernier de l'OCDE. Ouais. Vraiment le seul pays de l'OCDE dont les investissements en recherche et développement stagnent, voire diminuent. Donc ça, c'était le contexte actuel dans lequel on se trouvait au début de l'année. Et puis là, ce qu'on voit depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, c'est une guerre commerciale qui perturbe la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça, c'est un coût direct pour les laboratoires qui font la recherche. Ça coûte plus cher d'acheter le matériel nécessaire, les ordinateurs, tout ça. Tout est perturbé. On coupe aussi directement dans le financement de la recherche. Il y avait beaucoup de chercheurs et de chercheuses canadiens qui recevaient des fonds directement des organismes subventionnaires américains, comme le NIH, le National Institutes of Health, par exemple. Donc, il y avait des collaborations internationales. Et là, tous les départements américains voient des coupures budgétaires de 30, 40, voire 50 % dans certains cas. Et donc là, ils coupent dans leurs dépenses. Et les premiers à écoper, c'est souvent les collaborateurs internationaux. Donc là, ça coûte plus cher de notre côté. On a moins d'argent. Et puis, comme M. Bérubé le disait tout à l'heure, on a beaucoup aussi de suppression de données. Par exemple, on a parlé de notre côté au docteur Jérôme Marty, qui est président de l'Association internationale pour la recherche sur les Grands Lacs. C'est partagé historiquement entre le Canada et les États-Unis. Puis là, du côté des États-Unis, on voit que on ne veut plus faire de suivi, on ne veut plus regarder ce qui se passe en termes de nutriments, en termes de population des poissons, des algues et tout ça. Donc là, qui va assurer tout ce suivi-là? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le Canada. Est-ce qu'on va être capable d'investir, de répondre cette crise qu'on observe sur le continent nord-américain, parce que il y a quand même une possibilité. Là. Et c'est quelque chose qu'on a entendu dans le discours du trône de la part de ce nouveau gouvernement libéral au Canada. On veut transformer le Canada dans un hub d'innovation et de science. Oui. Donc, il y a quand même une possibilité qu'on investisse à ce niveau-là, mais ça reste à voir.
Oui, M. Bérubé, les coupes de Trump sont plus idéologiques que financières, pas vrai?
Ben, ils sont les deux. Hein? Ils coupent autant dans le financement que dans l'idéologie. Vous savez, les chercheurs américains ne peuvent plus envoyer des courriels à l'étranger ou répondre à des courriels de l'étranger, ne peuvent plus téléphoner au Canada, ne peuvent plus collaborer avec des chercheurs canadiens ou voyager en dehors des États-Unis. Et ça, pour vous donner un exemple, ça a un impact immédiat sur la santé des forêts au Canada. On a deux nouvelles maladies qui sont présentes au sud de la frontière et qui ont commencé à traverser la frontière pour revenir au Canada. Une maladie qui, dans les deux cas, c'est une maladie qui affecte les chênes, la flétrissure du chêne et la maladie d'encre des chênes. Et les Américains font face à ces maladies-là depuis maintenant 40-50 ans. Et ces pathogènes-là ont traversé la frontière. On a besoin de la collaboration avec eux pour contenir ces maladies-là. Et maintenant, le téléphone, c'est silencieux. Ils ne répondent plus du tout. Ils ont reçu ordre de ne plus répondre. Alors, c'est au-delà du financement. C'est une incapacité d'agir dans leur cas. Mm-hmm. Et on espère que ça n'arrivera pas au Canada, ce genre de choses-là.
Oui. Comment ça va vous affecter concrètement, vous, dans vos travaux, M. Bérubé?
Alors, pour combattre des maladies, il faut avoir des données de terrain, les fréquences, les endroits où les maladies sont trouvées. Et ça, ben, les Américains, un, ne font plus la recherche, et deux, ils ont dans l'interdiction de nous communiquer les résultats. Donc, c'est un peu comme le shutdown aux États-Unis qui fait que les données sur l'économie et le chômage et l'inflation ne sont plus récoltées. Et donc, maintenant, les décideurs, les économistes, les décideurs politiques doivent fonctionner sans un radar et voler dans un brouillard. Ben, c'est la même chose. Le radar ne fonctionne plus, on ne reçoit plus les données. Et on doit voler aveuglément dans le brouillard. Donc, c'est une situation qui... Et la même chose se passe en santé, par exemple. Mm-hmm. Les données sur les maladies infectieuses, comme la rougeole, qui est en explosion aux États-Unis, ben, ne sont plus récoltées et surtout ne sont plus transférées aux chercheurs, par exemple, de Santé Canada. Donc, ça devient critique.
Oui, du côté du budget, la défense et l'habitation devraient être deux domaines soutenus par le budget. Le premier ministre l'a promis. Quels sont les domaines scientifiques qui risquent d'être touchés, selon vous, M. Prou-Giraldo?
Mais comme vous l'avez dit, c'est vraiment tout ce qui est par rapport à la défense. Donc là, si on est capable de trouver un lien avec la sécurité nationale, la défense, là, c'est avec des domaines où on va voir un peu plus d'investissement. On peut penser, par exemple, aux technologies spatiales, à la quantique, à l'intelligence artificielle. Ça, c'est tous des secteurs qui vont probablement voir des investissements là, dans le budget de demain.
OK. Monsieur Bérubé, est-ce qu'il y aura des intouchables? On pense évidemment à la santé, on a parlé de la défense aussi, là, d'après vous. Et est-ce que vous faites partie de ces intouchables?
Même sous le gouvernement Harper, où là où les scientifiques du gouvernement canadien étaient muselés et les budgets de recherche coupés constamment, l'aspect réglementaire n'a jamais été trop affecté, parce que le gouvernement comprend très bien que le réglementaire a un impact sur l'exportation des produits canadiens et donc un impact financier immédiat. Et je crois, j'espère que le domaine réglementaire, lui, sera peut-être un peu moins touché que les autres. Et oui, moi, dans mon domaine de recherche sur les maladies des arbres, bien exporter du bois, bien, il faut que le bois soit sain, exemple de maladie. Et on espère qu'effectivement, le domaine réglementaire soit moins touché que les autres. Mais c'est bon pour les exportations, mais si on n'a plus les données sur la santé des forêts au Canada, ben on n'est pas plus avancé parce que les maladies vont nous rattraper ultimement et donc les exportations vont être affectées.
Oui. Est-ce que ça ressemble, ce qui se passe présentement, à votre entrée en poste lorsque Jean Chrétien, le premier ministre d'alors, avait voulu réduire le déficit de 44 milliards en fermant certains programmes de recherche?
On va le voir. On espère que les coupures ne seront pas aussi dramatiques. Je vous rappellerai qu'en 1996, ils ont coupé 25% de la fonction publique. Ils ont fermé des centres de recherche à deux endroits au pays. Donc, ça a eu un impact immense à ce moment-là. Cependant, je dois admettre que lorsqu'ils ont fait cette revue de programme-là, ils ont aussi simplifié les processus administratifs. Et donc, c'est devenu beaucoup plus facile pour nous pour gérer notre science. Malheureusement, depuis ce temps-là, les vérificateurs généraux du Canada ont rajouté plein de processus administratifs et maintenant, un chercheur gouvernement fédéral peut passer jusqu'à 25% de son temps à simplement remplir de la paperasse. Acheter un produit chimique, c'était très simple en l'an 2000. Maintenant, il faut un paquet de formulaires, c'est compliqué. Et là, je vous parle pas de tout ce qui est informatique, Ça, c'est absolument l'enfer. C'est impossible pour un chercheur de se procurer les logiciels qu'il lui faut, ainsi que les appareils, les ordinateurs puissants pour faire les calculs. Tout ça passe par des services centralisés qui ne fonctionnent pas.
Ah, oui. D'accord.
Alors, c'est très difficile pour nous de faire notre travail. Nos machines dans nos laboratoires ne peuvent plus communiquer entre elles pour une histoire de cybersécurité. Et donc, vous avez une machine qui produit des tonnes de données, de séquences d'ADN, par exemple, et qui ne peut pas communiquer avec vos propres ordinateurs. Et tout ça, ben, c'est causé par toute cette réglementation qui a été mise en place. Donc, les processus sont beaucoup plus complexes. On espère que si le gouvernement fait des coupures, il va aussi simplifier les processus derrière, comme avait fait le gouvernement Chrétien en 1996.
Oui, on va vous le souhaiter. Monsieur Prou, Giraldo, je vais terminer avec vous. Comment s'annonce l'avenir pour les scientifiques canadiens? Vous qui surveillez avec votre groupe Evidence for Democracy, vous surveillez un petit peu tout ça?
C'est une bonne question. C'est un peu difficile à dire. Si j'avais à me tourner un peu vers l'avenir, puis à penser à ce à quoi va ressembler les prochaines années, d'après moi, on va voir une ouverture vers le monde. Les États-Unis ont vraiment été notre partenaire commercial, mais aussi scientifique pendant des décennies au Canada. Et là, je pense que dans le futur, on va chercher de nouveaux partenariats ailleurs à travers le monde. Ça va être une chose. Probablement aussi, il va falloir se pencher sur la question de l'immigration au Canada. Il y a beaucoup de la recherche qui se fait au Canada, surtout à l'université, qui est faite par des étudiants internationaux. Il y a à peu près la moitié des gens au cycle supérieur et des postdoctorants partout au Canada. Donc là, si on met des seuils d'immigration fixes, il va falloir penser aux conséquences que ça a pour nos capacités de recherche au Canada. Ça va être un grand enjeu, j'ai l'impression, pour les prochaines années. Tout ce qui est talent, rétention et immigration.
Oui, et ça va prendre des fonds, ça va prendre un soutien, tout ça?
Absolument.
Oui. Entendu. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Félix Prou-Giraldo, directeur général par intérim d'Evidence for Democracy, et de Jean Bérubé, vice-président du groupe de chercheurs scientifiques du gouvernement qui représente 3000 chercheurs fédéraux en santé, environnement, mathématiques et même jusqu'à la défense. Merci à tous les deux.
Merci.
Je vous remercie. Bonne journée.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.